À l'occasion de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme du 21 au 28 mars, Radio Ondaine vous propose une série d'émissions. Si l'on parle de lutte contre le racisme, on visualise tout de suite le symbole de cette main jaune où est inscrit sur la paume « Touche pas à mon pote ». C'est le logo de SOS Racisme, créé en 1985 pour se décliner sur tout le territoire français par des antennes locales, dont celle de Saint-Étienne, au 17 rue Sainte-Catherine. Nous vous proposons aujourd'hui un échange avec Dominique Jarry, responsable des interventions en milieu scolaire, et Saïd Amimi, en charge du pôle juridique de SOS Racisme Loire, où l'on revient sur leurs activités dans une période où le coronavirus est dans toutes les conversations et fait la une de toute l'actualité.
C'est très compliqué, comme pour tous les Français et tous les Européens. Mais après, bon, voilà, SOS Racisme a continué à vivre, voilà, SOS Racisme a continué à exister. Nous avons quand même reçu des victimes, soit par téléphone, soit même en physique, avec toutes les barrières qu'il fallait. Le fait qu'il y ait le Covid n'a pas arrêté le racisme et les discriminations. Ça a quand même continué par le Covid. Fin mai, début juin, nous avons quand même alerté le préfet et le procureur et le maire de Saint-Étienne sur la montée des actes racistes. Donc voilà, le fait qu'il y ait le Covid, pour nous, ça n'a pas tellement changé les choses. On se voit moins. C'est plus compliqué, mais il y a toujours le racisme, il y a toujours les discriminations. Et ça, c'est, bon, j'allais dire, c'est bien dommage, mais c'est la nature humaine. Et elles ont même augmenté avec le Covid. Les gens, le fait qu'ils soient enfermés chez eux, fait qu'il y a une poussée du racisme, comme nous a confirmé le colonel de gendarmerie. Voilà, les gens, maintenant, ne discutent plus entre eux. Ils se rentrent dedans, ils se tapent dessus, ils s'injurent. Alors qu'avant, voilà, ils pouvaient discuter. Mais le Covid, voilà, ça fait du mal, peut-être au niveau psychologique. Mais pour nous, ça n'a pas tellement changé les choses. On va continuer, on continuera à recevoir les gens, s'il faut par téléphone, s'il faut par visioconférence. Mais c'est vrai que c'est compliqué.
Alors justement, parlons des SOS Racisme. On est obligé toujours de faire ce lien avec l'actualité. Donc profitons de ce moment d'antenne pour pouvoir présenter ce qu'est SOS Racisme et quelles sont ses activités. Quel est l'objet des SOS Racisme aujourd'hui?
Un petit moment d'histoire d'abord. SOS Racisme a été créé, si j'ai bonne mémoire, en 1984, suite à la marche. Et maintenant, disons que les activités principales de SOS Racisme, mais, y compris dans la Loire, bien sûr, c'est d'abord, bien sûr, la lutte contre le racisme au sens propre du terme, mais aussi contre toutes les discriminations. Notre fonds de commerce, si je puis dire, c'est le racisme, bien sûr, mais il ne faut pas oublier que beaucoup de discriminations sont liées au racisme, pas qu'au racisme. Mais enfin, nous sommes plus concernés par cela, même si nous pouvons nous intéresser à d'autres formes de discrimination, bien sûr. Mais dans des cas bien précis, nous sommes obligés d'envoyer ces gens-là, par exemple, des discriminations à l'homophobie, tout ça, de les renvoyer vers des gens plus spécialisés que nous.
On peut citer les associations à Saint-Étienne comme Triangle Rose qui lutte contre les haines LGBTIQ+. Alors SOS Racisme aussi a cette particularité-là d'être dans le paysage français, dans vos bureaux ici, aux alentours de la rue de la Résistance. Je vois cette main, touche pas à mon pote, ici c'est la honte. Une exposition et donc des antennes locales et une entité nationale. Comment se déclinent les activités de chacune de ces divisions, va-t-on dire?
Alors il y a toujours, j'allais dire, sur tous les comités SOS Racisme, on a des choses qui sont communes, c'est-à-dire par exemple, je vais parler des testings. On est une association qui a toujours valorisé le testing, les interventions scolaires, les permanences juridiques. Après, on est tous libres de faire un peu ce que l'on veut. Non, mais voilà, on a quand même une charte. Mais par exemple, le comité des SOS Racisme de Loire avait choisi au début de lutter contre toutes les discriminations. Maintenant, comme le disait mon collègue Dominique, il y a des associations plus spécialisées, donc tant mieux. Mais au début, c'est vrai qu'il y a 10-15 ans, le Triangle Rose, le refuge n'existait pas à Saint-Étienne. Donc voilà, nous, on portait un petit peu cela. Maintenant qu'elles existent, tant mieux. Voilà. Après, il y a des projets qu'on peut mener au niveau local. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les comités SOS Racisme sont indépendants. Nous ne sommes pas des fédérations, nous sommes des structures indépendantes avec nos statuts, notre vie. Bien sûr, on doit je vais pas dire rendre des comptes parce que voilà, on est un peu libre, mais voilà, mais on est indépendant, donc après on a nos projets à nous ou des projets portés par Paris qui peuvent nous transmettre, mais on peut faire un peu ce que l'on veut sur le département de la Loire. C'est vrai que SOS Racisme Loire existe depuis 2005. On a toujours été présent, on a toujours voilà, lutté contre les discriminations depuis 2005 à Saint-Étienne et dans la Loire. On déborde un petit peu sur la Haute-Loire, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de comité sur la Haute-Loire, donc c'est vrai qu'on déborde, on a des dossiers sur la Haute-Loire. Mais voilà, donc on est présent. Alors j'allais dire, comme on est assez bien implanté, on est connu, et c'est vrai que la petite main jaune est connue, c'est ça l'apport qu'apporte SOS Racisme, comme nos collègues de la LICRA, on est connu au niveau national, donc les gens, par exemple les gens, voilà, appellent, parce que souvent ils passent par un site national ou par notre Facebook, donc les gens, voilà, c'est ça qui est important, c'est qu'on là, on est une association reconnue au niveau national, donc on est reconnu au niveau local.
Je pense d'ailleurs que si les gens ont besoin de savoir, nous, ils n'ont pas de... savent pas comment nous joindre, ils vont tout simplement sur notre site SOS Racisme Loire et ils auront nos coordonnées, ils auront tout.
Qui peut faire appel à vous et pourquoi on fait appel à SOS Racisme ?
Alors, qui peut faire appel à nous ? J'allais dire tout le monde. C'est-à-dire toute personne qui se dit victime du racisme ou de discrimination. Après, nous, on fait une étude juridique, parce que voilà, donc on a des juristes pour faire une étude juridique. C'est vrai qu'il est toujours décevant de dire à quelqu'un « Je suis désolé, votre dossier, juridiquement. » Mais après, voilà, nous, on reçoit les gens sans aucun a priori. Ils nous disent « Je suis victime de racisme ou de discrimination. » Nous, on dit « Bah écoutez, on va regarder. » On peut faire un testing, par exemple, pour prouver s'il y a discrimination. Voilà. Donc, on n'a pas de limite. Après, bon, comme on vous expliquait maintenant, c'est vrai qu'on se concentre sur les discriminations à caractère racial, ethnique, religieuse, ou les actes racistes, parce que maintenant il y a de plus en plus d'associations spécialisées, et tant mieux. Voilà, mais alors nous sommes ouverts à tout, voilà, on reçoit sur rendez-vous tous les jours pratiquement, et j'allais dire, s'il y a du racisme, on est là.
Nous sommes toujours objectifs, c'est-à-dire que nous essayons d'écouter les deux parties, aussi bien le plaignant, celui qui vient nous trouver, et on essaie dans la mesure du possible, quand il veut bien nous parler, bien sûr, de la personne mise en cause ou de l'entreprise mise en cause ou la mairie mise en cause, même ça peut arriver.
Alors si l'on devait, pour nos auditeurs, finalement, expliquer un exemple, alors dans toute l'anonymat, mais quelle action, par exemple, a été menée, quelle aide a été apportée à une personne par SOS Racisme dans la Loire ces derniers mois, quelque chose qui pourrait être l'exemple de l'action d'SOS Racisme Noir.
Bah écoutez, nous avons eu le cas d'un jeune homme qui travaille dans une entreprise et un de ses collègues l'a battu à coups de barre de fer avec des injures racistes. Voilà, ce jeune homme, l'entreprise n'a pas minimisé les choses, mais a tenté de faire une médiation en disant bah voilà, c'est pas très très grave. Nous, notre rôle, c'est d'expliquer qu'un acte raciste est un acte raciste. Voilà, le monsieur a failli recevoir un coup de barre de fer sur la tête. Donc on peut pas laisser faire en disant voilà. Donc le jeune homme a déposé plainte et c'est vrai que sur la plainte, nous avons tout de suite remarqué que les injures racistes étaient minimisées. Ce qui fait que c'est une plainte minimisée parce que l'aggravation de l'acte raciste, donc nous avons fait refaire la plainte, nous avons écrit au procureur en expliquant que les propos racistes avec tous les témoignages qu'il y avait, parce que nous avions les témoignages de collègues et même de l'employeur. Donc voilà, c'est ça aussi, c'est d'accompagner une victime parce que les gens ont du mal avec avec la justice, la police par exemple, c'est pas de leur faute, mais voilà, ils ont du mal par exemple à comprendre que l'acte raciste est un fait aggravant en droit pénal. Donc voilà, ça a été une occupation. Après, il y a aussi par exemple, c'est un peu plus vieux, mais par exemple, il y a un cas qui nous tient à cœur à SOS Racisme Loire, c'est l'affaire de l'agression de l'Etra. Cette dame d'origine maghrébine qui se fait agresser à l'Etra par une autre dame, donc un coup de laisse. Injures devant les enfants, injures racistes. Cette dame, on va au tribunal, l'auteur reconnaît tous les faits. Il y a un défaut de procédure. Un magistrat oublie de signer un document, donc le dossier est clos. Ensuite, le but, c'est aussi d'accompagner la victime, on va dire psychologiquement, dans l'écoute. Lui dire que c'est pas son dossier qui était... C'est une erreur de procédure. Voilà, ça a été de l'écouter, de l'entendre. Parce que souvent, il y a des gens qui viennent nous voir, peut-être qu'ils veulent pas faire une procédure, mais ils veulent être écoutés. Souvent, par exemple, là, on écoutait les messages téléphoniques, on a eu un message téléphonique d'un monsieur qui nous dit « C'est juste pour vous informer. » Il nous a laissé le message hier. Il nous dit, voilà, c'est juste pour vous informer, il y a ça. Et on a souvent des dossiers comme ça où si des gens nous disent, ah, c'est pour vous informer, ou c'est pour vous... Voilà. Donc ça restera et on continuera à faire ça aussi.
Alors justement, cet accompagnement juridique et cet accompagnement aussi psychologique, est-ce que c'est vous, bénévole, qui vous en chargez ou est-ce que vous appuyez sur les compétences de chacun de bénévole ou vous avez peut-être un réseau aussi de juristes, de psychologues vous accompagnent aussi ?
Qui nous accompagnent vraiment, non. Mais nous efforçons d'orienter les gens vers des gens qui sont aptes à les aider.
D'accord. Voilà. Alors, si l'on prend cet exemple-là de cette affaire de Letra, comment vous représentez, si vous représentez la victime à un tribunal, est-ce que vous portez plainte aussi au nom des SOS Racisme ? Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose d'important pour pouvoir avoir la parole ?
Alors, pour vous expliquer, SOS Racisme a décidé, à sa création, de le faire très très peu, sur les particuliers. On fait très peu de constitution partie civile sur les particuliers parce que bon, c'est un particulier, on va pas voilà. Mais par contre là sur le dossier de l'ETRA, nous avons aidé au financement de l'avocat parce que la personne n'a pas forcément les moyens. Nous sommes constitués partie civile. Nous étions partie civile parce que c'était une dame voilà qui était pas dans le déni mais qui va se présenter devant les caméras de vos confrères pour dire ah mais quand on est énervé on dit ce qu'on pense. Donc voilà, et donc c'est, il y a eu tout un fait qui a fait. Alors, on peut se porter partie civile, on le fera sur les entreprises, comme on avait fait il y a une dizaine d'années pour l'OPAC, etc. C'est vrai que sur les particuliers, déjà, le fait qu'on soit dans le dossier, ça fait déjà peur. Alors, mais on le fait rarement de se porter partie civile sur les particuliers, c'est un choix volontaire pour éviter des accablés. Mais par contre, nous accompagnerons la victime jusqu'au bout, pour l'accompagnement juridique. C'est-à-dire que voilà, c'est même s'il fallait, on peut les aider juridiquement à trouver un avocat, parce que souvent elles sont dépourvues. Moi, je me rappelle d'un dossier dans le milieu hospitalier, un agent hospitalier qui s'était fait injurier, où elle n'avait pas trouvé la réponse qu'en tant qu'agent hospitalier, elle avait le droit à l'avocat payé par son employeur, ce qu'on appelle la protection fonctionnelle. Et j'ai trouvé ça affolant qu'elle avait vu des syndicats qui ne l'avaient pas dit. Donc voilà, donc nous avons fait le courrier pour la protection fonctionnelle, elle a pris un avocat, bon, elle a eu gain de cause, mais on ne va pas se porter perte civile pour la personne partie en face, c'était une jeune fille de 24 ans. Je ne connais pas son passé, je ne connais pas, voilà, qui était énervée, bon, qui a dit des propos, il faut qu'elle soit condamnée là-dessus. Mais nous, on ne va pas en rajouter en deux. Parce que si on se porte partie civile, c'est pour demander de l'argent. Et on va rarement demander de l'argent à une gamine de 24 ans. Moi, je ne me vois pas, voilà.
Alors, vous en parlez justement, la jeunesse, alors la jeunesse n'excuse rien, la vieillesse non plus, hein, mais il y a quand même aussi une part d'éducation et de sensibilisation, et Dominique, c'est votre rôle aussi d'intervenir en milieu scolaire. Année Covid, année particulière, passons outre ça, très difficile. En temps normal, quelles sont vos interventions en milieu scolaire et puis vers quel niveau finalement vous vous adressez et expliquez-nous un peu ces interventions-là.
Ben, nous intervenons surtout, d'abord il faut que c'est organisé par Saint-Étienne Métropole et il faut que les présidents, les directeurs d'écoles enfin, ou d'établissements scolaires soient d'accord. Ensuite, à ce moment-là, nous ne prenons jamais une classe complète. Nous essayons, dans la mesure du possible, de prendre les enfants, ou les jeunes, disons, une quinzaine par une quinzaine, parce que le dialogue est beaucoup plus facile. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons dans une intervention ? D'abord, nous leur expliquons, nous leur demandons, même moi, je sais, je fais comme ça, qu'est-ce que le racisme pour vous ? En général, ils ne savent pas. Mais qu'est-ce que les races ? Est-ce que d'après vous, il existe plusieurs races ? Ah oui, monsieur, il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les jaunes. Ah bon ? Et moi, je prends souvent un exemple qui est tout bête, c'est que vous prenez le cadavre d'une personne à la peau noire, d'une personne à la peau blanche, vous écorchez, quelle est la différence ? Il n'y en a aucune. On s'adresse comme ça à des enfants de 4e, 3e. C'est une façon simple de leur montrer que finalement il n'y a pas grosse différence. Après, avec des enfants plus âgés, on peut passer dans les ADN, par exemple, et on leur dit que c'est vrai qu'il n'y a que 0,01% de différence ADN entre quelqu'un qui a la peau blanche et quelqu'un qui a la peau noire. Ça tient justement à la peau, à la couleur de la peau, à la forme du visage quelquefois, mais les gènes sont exactement les mêmes. Alors on parle là-dessus d'abord. Et ensuite, après un exposé comme ça sur le racisme proprement dit, on fait un petit historique du racisme, bien sûr, bon, je vais vous en dispenser. Et ensuite, on passe sur les discriminations qui sont liées au racisme. Discrimination à l'emploi, au logement, à la banque, ça peut exister. Les gens ne savent pas que maintenant... autrefois, alors, il fallait être domicilié en France, en métropole, pour se porter garant. C'est depuis un peu que c'est interdit, enfin que maintenant on peut se porter garant sans être en habitant à Guadeloupe ou comme ça. Voilà, mais ce sont des choses qu'ils ne savent pas. On explique tout ça. Et bon, mais la plupart du temps, on tombe sur des enfants ou des jeunes qui sont assez réceptifs, sauf dans certains établissements. Voilà, ils sont même plutôt bloqués, ça me rappelle une anecdote, ça. Où je demandais à des gamins, comme je le fais toujours au début, combien y a-t-il de races ? Le jeune me répond, deux. Ah oui, lesquels ? Les Aryens et les Gaulois. Alors je voyais qu'ouvertement, il se payait ma tête, quoi. Il dit, non, vous en oubliez une. Ah, laquelle ? La race des bœufs, vous en faites partie. Et j'ai retourné les rieurs. Il faut savoir aussi les prendre comme ça, hein, parce qu'il faut dialoguer. On se base sur le dialogue. Déjà, c'est souvent Saïd qui vient avec moi. On dialogue déjà tous les deux et on fait dialoguer les enfants, parce qu'il faut qu'ils participent. Si c'est juste pour écouter un cours et prendre des notes, ce n'est pas la peine.
Oui, c'est important, c'est ça. C'est que les interventions, c'est de l'interaction. Le but, ce n'est pas de leur faire un cours. C'est vrai qu'on leur explique voilà, ce que c'est que l'article 225-1 sur les discriminations, ce que dit la loi. On leur fait aussi un rappel juridique, parce que ça, c'est important de leur dire que, par exemple, quand ils disent par exemple, des mots, même « sale bougnoule »,« sale pédé », voilà, ce n'est pas des propos qu'on peut tenir. Voilà, on leur explique. « Ah, mais on rigole. » Oui, mais tu rigoles, mais si tu as quelqu'un qui est homosexuel dans la classe, ça ne va peut-être pas le faire rire. Après, donc, voilà, comme expliquait Dominique, il y a les semaines de l'égalité. Donc, qui cette année auront lieu en septembre. Il y a aussi des interventions qu'on nous demande. Nous avons fait une intervention à Saint-Galmy au cinéma sur un film. Il y a des interventions dans les MFR et dans les lycées agricoles. Alors, partout où on nous demande, on y va. Et c'est vrai que, bon, on a une chance, c'est que, j'allais dire, bon, l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais nous, voilà, on le dit, si l'établissement n'a pas d'argent, on est là.
Alors, on parle de ces jeunes-là. Autre fléau aujourd'hui, le fléau 2.0, l'Internet libre, les vidéos TikTok, tout est permis. On fait des choses dans sa chambre, on fait pour rire des copains, on le montre au monde entier. On peut être homophobe, on peut être antisémite, on peut être raciste, en toute impunité dans l'esprit de ces auteurs de vidéos, même sans excuser personne, mais en pensant que ça fait partie de la normalité de 2021. Cette normalité-là, c'est pourquoi pas se filmer en train de dire des choses avant de réfléchir. Est-ce que ça aussi, c'est un nouvel axe sur lequel SOS Racisme doit travailler et doit aussi se concentrer finalement la veille numérique ?
Alors, il y a déjà des choses qui sont faites. Je vais vous répondre déjà sur le fond, ce que j'en pense. C'est que quand on entend à la télé des gens qui ont la parole libre, qu'on se permet de dire des choses racistes, homophobes, etc., les jeunes, ils voient la télé, ils disent, on peut faire la même chose. Parce que, oui, on leur explique, nous, dans les interventions, que c'est pas parce que c'est sur Internet que c'est libre, etc. On leur explique que sur Facebook, ça peut être une injure privée ou une injure publique, hein, que ça peut être partagé, donc, etc. Après, c'est vrai, je vous le dis clairement, on n'est pas des spécialistes là-dessus. On n'est pas des spécialistes. Je sais que, par exemple, il y a des associations comme la Ligue de l'enseignement qui se sont vraiment spécialisées là-dessus. Nos collègues de Triangle Rose qui se sont vraiment spécialisés sur le cyberharcèlement, etc. Nous, oui, il faut qu'on s'y mette, c'est vrai. Après, on est une vieille association, donc on va s'y mettre. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu de retard là-dessus. Je sais que Paris commence à combler le retard, voilà. Après, nous, on leur explique bien que, voilà, c'est pas parce que c'est sur Facebook. On a des signalements de Facebook. Des gens, voilà, on nous dit, voilà, regardez sur Facebook tel truc. Moi, ce qu'on peut leur dire, c'est signaler, etc. Souvent, ça disparaît très, très vite, donc la plainte. Après, nous, on n'est pas spécialistes du cyberharcèlement, ça, je l'avoue. Et c'est vrai que vous avez raison, il faut qu'on s'y mette.
Alors, revenons au cœur des SOS Racisme, ici à Saint-Étienne, avec cette porte et cet interphone. C'est ouvert, c'est accessible. Aujourd'hui, pourquoi faut-il penser à vous contacter? Pourquoi faut-il le faire? Et pourquoi ne faut-il pas avoir peur de le faire? Si quelqu'un écoute cette émission-là et sentirait un peu, comprendrait ce message-là, voilà, qu'est-ce que vous aurez à lui dire?
Qu'il nous contacte, qu'il ne laisse surtout pas passer quelque injure à caractère raciste ou homophobe, par exemple, mais surtout quelque injure à caractère raciste, et quand je parle d'injure, encore plus des violences, bien sûr. Il ne faut pas avoir peur. Nous, ces gens-là, ils nous arrivent parce qu'ils n'osent pas déposer plainte au commissariat de police, par exemple. Mais nous, nous sommes là pour les accompagner. Nous y allons avec eux. Ça les rassure, déjà. Mais nous, on est ouverts. Nous, ils viennent, déjà, même si c'est ne serait-ce que pour parler, quelquefois, c'est important d'être écouté, et on est là. Mais il faut bien que les gens qui se disent, quand ils sont en proie, même dans un immeuble, à des voisins qui les insultent, etc., qu'ils viennent nous voir. Nous, nous les accompagnerons et nous ferons tout notre possible pour que cela cesse.
Il y a quand même des choses importantes, c'est-à-dire que, voilà, déjà, pourquoi SOS Racisme, on n'a pas voulu faire de permanence dans les quartiers? C'est qu'ici, voilà, c'est très discret. Quelqu'un peut venir, personne ne saura qu'il n'est jamais venu. Nous sommes tenus au secret professionnel, comme la loi le prévoit. C'est-à-dire que tous les dossiers sont secrets. Moi, avant de faire tout acte de procédure, je demande à la personne si elle est d'accord. Si elle me dit non, c'est non. Par exemple, si la personne ne veut pas qu'on contacte, par exemple, ça peut être la partie adverse quand c'est possible, parce que pour un cas d'injure, etc., on contacte, ou de discrimination, on ne contactera pas. Mais souvent, il y a des problèmes de voisinage, etc., on essaie de contacter l'opérateur d'habitat ou la personne de partie adverse. Mais sinon, voilà, on est discret, on est tenu au secret professionnel, et voilà, son dossier ne sortira jamais d'ici, voilà, si elle ne le souhaite pas.
Alors, rappelons quand même votre adresse ici à Saint-Étienne et peut-être un moyen de vous contacter.
Bah écoutez, notre adresse est SOS Racisme, 17 rue Sainte-Catherine à Saint-Étienne. Et pour nous contacter, le plus simple, c'est soit sur la page Facebook SOS Racisme 42, soit avec notre numéro de téléphone 06 32 18 70 79.